Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Merci Philippe pour cet exposé. On va passer à la séance de débat, mais effectivement c'est tout à fait remarquable. On en parle souvent dans l'actualité. Dès qu'il y a un problème, un fait divers, on invente de nouvelles peines carcérales, chaque fois toujours plus, toujours plus, toujours plus. Société de la répression systématique, oui, c'est clair. Qui veut démarrer le débat?
Je voudrais que vous développiez pourquoi vous trouvez que la réduction de la durée des peines aux Pays-Bas vient minimiser leur effort de réduction carcérale. Je ne vois vraiment pas le problème, donc peut-être le préciser.
Non, il ne s'agit pas de minimiser ce qui a été fait aux Pays-Bas, mais il s'agit tout simplement de dire que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait beaucoup moins de personnes incarcérées globalement aux Pays-Bas. Mais qu'en même temps, ça ne résout pas les problèmes que j'ai évoqués tout à fait à la fin en amont. C'est-à-dire que la question de la délinquance, la question de la criminalité, n'est pas fondamentalement réglée dans ce pays autant qu'on pourrait l'imaginer au vu, justement, de cette situation carcérale. C'est-à-dire qu'on a procédé différemment, en fait. Pour dégonfler cette population carcérale, le fait d'appliquer des très courtes peines, et donc il y a un turnover permanent hein, au niveau des prisons néerlandaises, effectivement, ça dégonfle le nombre de personnes incarcérées. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les Pays-Bas font sensiblement mieux sur ce que j'évoquais tout à l'heure d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire sur la question de l'anomie. Il y a quand même des écarts assez significatifs entre la situation d'un pays comme les Pays-Bas et la situation d'un pays comme la Finlande, où l'on sent que ça a été plus profond, je dirais, comme façon de gérer la situation.
Oui.
Oh là là, je crains le pire.
Non, ne t'inquiète pas. Merci pour le passage sur l'abolition. Non, je voulais rester sur le sujet, sur ce que tu as dit par rapport aux tendances de croyances, soit catholiques, soit protestantes, et des influences sur l'évolution qu'il y a sur l'emprisonnement.
Revenir un petit peu sur cette idée-là. Alors, évidemment, c'est assez complexe parce qu'il y a tout un enchaînement, je dirais, qu'il faut envisager pour répondre vraiment à cette question. C'est-à-dire que le protestantisme, surtout luthérien, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un appel quasi religieux à deux choses. La première, ce qui est évidemment inhérent au protestantisme, c'est que la prospérité du côté des hommes plaît à Dieu. Ce que le catholicisme avait tendance évidemment à négliger en considérant que le passage sur terre, au mieux on gère ce passage sur terre, surtout s'il est douloureux, au plus on a l'espoir de gagner le paradis. Bon, je vais très vite. En même temps, du côté du protestantisme, il y a aussi le côté responsabilité individuelle qui est extrêmement marqué. Dans le protestantisme, la confession n'existe pas. On est en ligne directe avec Dieu. Sa responsabilité personnelle est engagée. Donc, ce qui explique, dans des pays à tradition protestante, comme les États-Unis, par exemple, la multiplication des fondations. Dès lors que fortune est faite, il faut rendre à la communauté une partie des résultats de sa réussite. Lorsqu'on est tout à la fois un pays protestant et un pays qui a épousé de façon assez fidèle tous les aspects, dans la période contemporaine cette fois, tous les aspects de la social-démocratie, ça donne un ensemble communautaire
très fort, très puissant. Ça se voit d'ailleurs quelquefois tout simplement dans l'architecture, dans la conception de certains hôtels en Suède où les parties communes sont vraiment importantes. Quoi. Il n'y a pas nécessairement la douche dans la chambre à titre individuel. Alors ça a l'air anecdotique, mais ça dit quand même pas mal de choses. Et l'idée, c'est que toute personne qui a transgressé, parfois violemment, donc de façon criminelle ou délictueuse, l'objectif, c'est de le ramener au sein de la communauté le plus rapidement possible. C'est une façon très pragmatique de considérer que la pérennité de la communauté, son avenir, doit en passer par le retour de la brebis galeuse, si je puis dire, au sein du groupe. Et effectivement, ça change beaucoup de choses dans la conception de la peine. Côté catholique, on a quand même gardé le côté peine expiatoire. C'est-à-dire, dès lors qu'une faute a été accomplie, eh bien, il faut non seulement être privé de liberté, mais en plus en baver, si je puis dire. Ça fait une grande différence, notamment ce que je rappelais tout à l'heure, au niveau du jugement. Dans les pays d'Europe du Nord protestants, on juge et en même temps, on tend la main à la personne qui a été jugée en disant... Évidemment, tu vas être puni, mais évidemment, notre souci, c'est que tu reviennes, d'une certaine manière, parmi nous, dans la communauté. Et pour cela, on va accompagner la peine d'un dispositif de réinsertion digne de ce nom, c'est-à-dire formation, c'est-à-dire des cours divers et variés, etc. Voire même, ce qui est le cas, je le disais tout à l'heure, aux Pays-Bas, être proche de l'individualisation de l'accompagnement et du parcours si une personne est addicte à l'alcool ou à la drogue, il faut d'abord prioritairement s'occuper de ça et ça évidemment c'est pas en fin de peine au moment où la sortie s'approche qu'on va régler ce type de problème là. Donc voilà, mais en parler plus longuement, d'abord il faudrait une expertise que je n'ai pas. Et il faudrait beaucoup plus de temps que ce soir.
Alors, je constate que tu as bien amélioré ta toupie.
Oui, la toupie.
Et ton...
Ça a été ma première préoccupation d'améliorer oui. cette
Et le sablier, donc oui. C'est très bien. Non. Humour mis à part, là, je voudrais revenir sur un facteur que tu as évoqué là quand tu essayais de prendre en compte ce qui a pu changer dans les dernières décennies là et en particulier augmenter l'anomie sociale. Donc tu as évoqué le néolibéralisme, et moi je crois que c'est le facteur principal. Enfin bon, depuis 1980, la politique Thatcher, Reagan, le culte de l'individu, c'est ça qui a miné nos sociétés, qui avant étaient sous l'ancien régime, il y avait des sociétés de corps, après il y a eu des sociétés de classe, la classe ouvrière a disparu, maintenant il y a plus de classe, il y a des espèces de magma, enfin bon voilà, et donc je pense que c'est un des éléments principaux. Avec la mondialisation. La mondialisation, qu'est-ce qu'elle a provoqué? Elle a provoqué, enfin, dans notre pays, une vague de désindustrialisation extraordinaire, qui des pertes d'emplois. Enfin, je pense que il y a quelque chose là qui est central, quoi. Voilà. Alors, ce que je voudrais, en complément de ça. Peut-être dire aussi que tu dis qu'on est dans une société de la peur, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que les gens, ils ont perdu leur emploi, ils ont peur de ne pas en retrouver, ils ont plus de projet social, il n'y a plus d'ascenseur. Alors, ça explique la montée du vote Front National, et ça explique aussi le recours, moi je trouve que c'est assez frappant, à la théorie du bouc émissaire. Donc quand ça va mal, quand on a peur, il faut trouver un bouc émissaire. Alors le bouc émissaire, on le voit bien, c'est l'immigré. Hein. Donc et alors on fait le lien entre évidemment l'immigré et la délinquance. Et alors, on retrouve là d'où les politiques sécuritaires qui sont menées par les gouvernements, parce qu'il faut essayer de répondre à cette peur des couches sociales, enfin des individus. Donc, voilà, d'où l'augmentation de la pénalisation, enfin le développement de voilà. Et donc, alors je termine aussi en revenant à cette histoire du néolibéralisme, le culte de l'individu, tu as dit que c'est tout à fait vrai. Maintenant, c'est que chacun doit se prendre en charge, chacun doit être auto-entrepreneur de lui-même. Hein, et donc, si on n'y arrive pas, ben on est foutu, on est désintégré, etc. Alors, ça devient caricatural avec, je pense, avec Macron. En fait, c'est-à-dire que chacun doit être le start-upper de lui-même. Et Macron a dit lui-même, la France, c'est une start-up nation. Hein, voilà. Donc, ça, je trouve tout à fait intéressant qu'il ait employé cette expression, parce que ça veut tout dire, quoi. Voilà.
Bah oui, j'ai pas grand chose à rajouter. Sauf peut-être un petit. Je faisais allusion à Pierre Bourdieu tout à l'heure, mais tout simplement pour dire que dans ce phénomène d'implosion de la société, Alain Touraine parle de la société liquide. Je trouve que l'expression est vraiment intéressante. D'abord, elle est extrêmement difficile à. Comment dire à lire en l'état actuel des choses, mais en plus les transformations sont de plus en plus rapides, donc société liquide. Alors en fait, ce qui est marquant dans les conséquences du néolibéralisme, c'est que, et là je reviens sur les fameux capitaux de Pierre Bourdieu, il y a des groupes sociaux qui concentrent tous les capitaux de la réussite. Capital économique, capital culturel, capital social, capital symbolique. Bon. Donc, les enfants, je dirais, de ces groupes sociaux-là, évidemment, non seulement s'en sortent bien, mais sont portés par ce message de « si tu veux, tu peux ». Et ce message, donc, qui est rappelé effectivement par notre président de la République, « il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi ». Donc, on est bien d'accord pour considérer que tout ce qui constituait les sources, les piliers de l'équilibre social, c'est-à-dire les collectifs qui se sont organisés et qui ont été produits par l'histoire, alors ces collectifs, on peut les désigner par corps intermédiaire, on peut les désigner par classe sociale, etc. Tout cela s'est brisé. Et ce qu'il en reste, je crois que l'épisode que nous connaissons actuellement sur la question de la retraite est assez éloquent, c'est-à-dire la fin de non-recevoir de la part d'un président de la République à l'égard des syndicats qui tendaient la main pour reprendre le dialogue sur cette question-là. Cette fin de non-recevoir est quand même très significative du regard que le pouvoir peut porter sur ces corps intermédiaires. Donc, malheureusement, on est contraint de faire le lien entre ce processus qui a marqué les 30 ou 40 dernières décennies et le résultat, je dirais, tout à fait en bout de course, c'est-à-dire le développement d'anomies, de formes d'anomies de plus en plus diverses, variées, qui touchent de plus en plus de monde et donc qui remplit les prisons.
J'ai une question un peu dans la foulée de ce que vous avez développé sur les influences religieuses. Dans l'optique justement d'un changement en France, est-ce que vous pensez qu'on peut dépasser cette espèce, je crois que ça a été théorisé, de ce plafond psychologique qui dit qu'on n'accepte pas qu'un prisonnier soit mieux traité que la personne la moins bien lotie à l'extérieur des prisons? On avait vu ça avec l'affaire du karting. En France, ça semble aller avec cette idée d'expiation, il faut qu'on en bave, et ça semble aller à l'encontre de la mise en place de mécanismes alternatifs, d'accompagnement, de soins. Dans quelle mesure on pourra développer ces éléments-là et pas se heurter à ce mur, d'après vous ?
En France, c'est évidemment particulièrement compliqué, particulièrement difficile.
On parlait tout à l'heure de modèles expiatoires, mais on est là-dedans. Et vous avez tout à fait raison de rappeler cette idée, bien ancrée dans l'opinion publique, qu'il n'est pas tolérable qu'un détenu puisse avoir une position plus favorable que le moins bien loti dans la société dehors. Bon. Alors, ce qui est évidemment quelque chose qui est complètement fantasmé, parce que la réalité, je dirais, de la vie du détenu dans les murs, ça va bien au-delà de la peine qu'il supporte de privation de liberté. On est bien au-delà de ça. Et je veux dire qu'il y a un certain nombre de contraintes imposées aux détenus qui ne peuvent pas se comptabiliser. Alors évidemment, il y aura toujours une partie de l'opinion publique qui dit ou qui prétend que, tiens, comme par hasard, la population carcérale augmente au moment de l'hiver. Ça passe jusque-là, quoi, hein, pour que les gens restent au chaud, au moins, pendant cette période-là. La réalité, je dirais, du parcours carcéral, elle est tout autre. En tant que visiteur de prison, on voit bien, c'est palpable. C'est palpable. Mais l'impact du discours qu'on peut avoir en tant que témoin de ce qui se passe à l'intérieur des murs auprès de l'opinion publique se heurte à des fantasmes, des certitudes, des représentations sur ce que doit être la vie d'un détenu. Alors le problème, c'est que, je le disais tout à l'heure, il y a pas mal d'acteurs qui soufflent largement sur les braises. Donc du côté médiatique notamment, mais aussi du côté d'un certain nombre de partis politiques qui s'empressent de développer leur propre électorat en attisant ces façons de voir les choses. Donc on a un très très gros problème, je dirais, et en même temps un grand travail de pédagogie à faire pour aller vers la réalité, et la réalité c'est tout à fait autre chose, quoi. Mais en tout cas à la française, dans les conditions actuelles, je vois pas vraiment, par rapport à la question que vous posez, un début de solution. J'espérais ensuite aller vers des choses plus sensées et avec une modification du regard porté sur les détenus. Mais Jacques, tout à l'heure, parlait des immigrés comme bouc émissaire. Il ne faut pas oublier que dans la représentation d'une majorité de l'opinion publique, le bouc émissaire, c'est le détenu, quoi.
Merci pour ton intervention. Enfin, alors, je vais essayer de quand tu dis cette vision un peu pessimiste, je vais essayer d'être optimiste. C'est vrai que, d'ailleurs, le président de la commission des lois, c'est comme ça aussi qu'il a balayé toute autre solution. Il a commencé à la commission des lois en disant « l'opinion publique n'est pas prête à accepter que l'on incarcère moins ». Donc moi, je pense qu'effectivement, c'est vraiment dommage de balayer d'un revers de main la seule solution qui s'impose à nous, effectivement, qui est de moins incarcérer, parce que je pense que, bon, tu as dû le présenter, la situation en France est assez dramatique, où on est condamné régulièrement par la CEDH, on a des rapports du Conseil de l'Europe qui sont accablants, et dernièrement, le 8 décembre, dernièrement, ils ont rendu une décision où ils demandent à la France de mettre, effectivement, l'accent sur les peines alternatives et les aménagements de peines, et d'arrêter la construction de la place de prison. Donc j'en profite, hein, vous le savez, que sur Muret, on nous promet un troisième établissement, et que, voilà, avec la Ligue des droits de l'homme de Toulouse, on est assez mobilisé contre cette construction. Parce que des solutions, il en existe. Elles sont présentes. Donc tu as montré la courbe, effectivement. Donc durant la pandémie, on a su vider les prisons, on a su le faire. Donc je pense sincèrement que ce qui a été mis en place pour pouvoir faire sortir des personnes qui étaient en fin de peine ou qui étaient sur des peines aménageables, ça a été fait, ça a vidé les prisons françaises. On s'est retrouvé des fois avec plus de places que de personnes détenues. Donc on sait faire, on s'est rendu compte qu'effectivement ça n'a pas mis la société à mal. les choses se sont bien passées et que je dirais même que pour certains, c'était uniquement où on a étudié, on a pu enfin étudier leur dossier d'aménagement de peine. Donc la solution, on l'a, on est en capacité de les vider. Et après, comme tu l'as présenté, la régulation carcérale, effectivement, à Grenoble, elle n'a pas fonctionné. Elle a été mise en place également à Bordeaux, où ils font une tentative. Et il y a d'autres lieux aussi où elle va être mise en place. Malheureusement, ce qu'on regrette, hein, et ce qu'on dénonce au niveau de la Ligue, c'est que toutes les informations qu'on nous envoie au niveau de ce gouvernement sont assez négatives, puisqu'effectivement, dans les discussions autour des états généraux de la justice avaient été mis en avant par le ministre lui-même cette question de régulation carcérale. Maintenant, ça a disparu de tout texte. On le voit plus. Alors que c'est vraiment une des solutions et une des choses qui permettrait, alors pas à 130, bien sûr, faut être correct quand même vis-à-vis des chiffres, mais qui permettrait effectivement d'éviter cette surpopulation carcérale. Après, il faut agir. Bon, je ne vais pas revenir sur toutes les lois pénales, hein, ça a été dit, tu l'as dit, avec ces politiques sécuritaires. Sur le dernier quinquennat, on est arrivé à plus de 120 délits punis de peines d'emprisonnement qui ont été créés sous un seul quinquennat. Il y a des chiffres, vous pourrez les trouver, où on parle du code pénal et effectivement de cette inflation qui génère cette surpopulation. Il y a l'histoire de l'échelle des peines, parce que au niveau européen, on est très mauvais élèves. On a une moyenne des peines qui est la plus longue, et c'est même pas moi qui le dis, c'est Alain Ridel, le président de l'administration pénitentiaire lui-même, qui dit qu'en France, on a une moyenne des peines les plus longues, c'est à peu près 11 mois de détention, que la moyenne européenne, on est sur du 5-6 mois. On a les peines les plus longues, 30 ans, la moyenne européenne, c'est 15 ans. Donc il y a beaucoup de choses effectivement sur lesquelles il faudrait agir. Malheureusement, effectivement, on a des politiques à l'heure actuelle qui ne vont pas dans ce sens-là. Je voulais aussi revenir quand tu parlais sur les solutions cosmétiques. Les prisons ouvertes en France, il y en a une, à Mozac. Et après celle qu'on connaît de Corse, qui date des années 70. Il faut voir comment on n'a pas su évoluer sur cette question-là en France. Et Badinter était un fervent effectivement défenseur de ces prisons ouvertes. Ils les avaient même imaginées et elles n'ont pas été mises en place. Il y en a une seule en France. Donc il est temps aussi qu'on fasse la bascule par rapport à ça. Le placement extérieur, tu n'en as pas parlé. Le placement extérieur.
On peut pas évidemment tout dire et tout déployer, mais évidemment
qui a des résultats excessivement positifs. Même l'ANJAP, l'Association nationale des juges d'application des peines, ont demandé en 2023, là au mois de novembre 2022, lors de la discussion du budget, que l'État mette effectivement le focus sur ça, sur ce placement extérieur, parce que sur le budget 2022, il faut quand même le savoir, c'est 26 places qui ont été financées pour tout le territoire national. Et là, sur le budget 2023, on continue. C'est plus de 50% du budget, c'est 60%, j'ai les chiffres, hein, c'est 60%, c'est la construction de prisons. Pour le placement extérieur, c'est 4,9% du budget qui est consacré sur les aménagements de peine et le placement extérieur, ce qui est ridicule. Pour la restauration des établissements à l'heure actuelle, dont la maison d'art et de Sèze, ce qui est vétuste, c'est même pas 7% qu'on accorde sur le budget. Donc il y a vraiment, effectivement, pour l'instant, un gouvernement qui va dans le mauvais sens. Alors que les solutions, elles existent. On les connaît, on sait sur quoi il faut agir, et surtout pas sur la place de construction, parce que c'est au détriment de tout ça. Et là où je te rejoins, bien sûr, la première chose sur laquelle il faut agir, c'est la prévention. Il faut mettre tous les moyens sur la prévention, et la Suède, d'ailleurs, sur un des pays que tu as présenté, c'est ce qu'elle dit, la meilleure politique pénale ou carcérale, c'est une bonne politique sociale. Il faut savoir agir sur ça. Alors c'est vrai qu'avec la disparition du service public...
Merci Caroline, parce qu'en fait c'est une synthèse de ce que j'ai essayé de présenter. Donc, je voudrais juste dire deux choses par rapport à ce que tu dis. Évidemment qu'il y a des pistes. Tu parlais du placement extérieur. On sait qu'il y a des sites, par exemple du côté d'Emmaüs, des sites qui existent dans le sud-ouest, où il y a par exemple une vingtaine de places possibles et où royalement l'administration pénitentiaire
accorde 10 ou 12 possibilités. Donc, évidemment que ça ne suit pas. Maintenant, là où je suis un petit peu inquiet, imaginons un ministre de la Justice demain qui, mû par un courage politique, une espèce de révélation, et qui dirait « on arrête ce bazar, il faut tout changer ». Électoralement, c'est se mettre une balle dans la tête. Mais c'est, ça me paraît malheureusement être, dans la situation actuelle, quelque chose de... Je veux dire par là que la question carcérale et la politique carcérale est littéralement prise en otage des enjeux électoraux, quelquefois avec des erreurs d'appréciation du côté des communicants au niveau gouvernemental, peut-être qu'ils se trompent sur pas mal de choses. Il n'en demeure pas moins qu'un ministre de la Justice qui irait dans une autre voie véritablement alternative, bon... C'est même pas la peine de l'imaginer un instant. Et la deuxième chose que je voulais dire, Caroline, c'est que ce qui donne un peu d'espoir, c'est que quand, dans les responsabilités associatives, par exemple, on est amené à rencontrer des directeurs, même parfois départementales, de SPIP, en catimini, dans les couloirs, on sent qu'il y a du débat. On sent qu'il y a des personnes qui en sont en responsabilité et qui considèrent qu'il faut vraiment faire autrement. Alors, bien sûr, ça ne constitue pas une masse critique suffisante pour faire basculer les choses. Mais il n'y a pas si longtemps, on a entendu le discours, effectivement, de Laurent Ridel qui... est venu nous rejoindre au cours d'une assemblée générale de l'association, on a été tous assez surpris par l'orientation qu'il souhaitait donner dans sa sphère de responsabilité. Sauf que Laurent Ridel est un haut fonctionnaire qui règne effectivement sur 40 000 fonctionnaires, mais qu'au-dessus, il y a un ministre et qu'au-dessus du ministre, il y a un président.
Je voulais juste quand même rappeler quelque chose, c'est que quand on parle de l'opinion publique, et moi je pointe vraiment nos politiques, et je parle de manque de courage politique. Ils n'ont absolument pas le courage politique, effectivement, de dire ce qui se passe réellement et de partir sur une autre orientation. Christiane Taubira l'a eu avec la contrainte pénale, mais on voit effectivement voilà, comment ça s'est soldé. Moi, je pose quand même la question, à l'heure actuelle, vu le nombre de personnes que l'on incarcère, est-ce qu'on reste vraiment un pays démocratique? Et lorsqu'on a aboli la peine de mort, je crois qu'on n'a pas attendu que l'opinion publique y soit favorable. Donc je pense qu'il faut vraiment maintenant faire le pas.
J'ajouterai un point qui est particulier, c'est tout le passage pour les étrangers de ce qu'on appelle la double peine. Parce que là, c'est quand même très particulier, il y en a beaucoup qui malheureusement... ont pris des peines de délinquance et se retrouvent en maison d'arrêt à Seis en particulier. C'est ce que tu as présenté comme étant un des établissements les plus surpeuplés en France, apparemment. Et il est fréquent, quand les gens sont mis en détention, puisqu'ils sortent de détention, ils ne sont pas libérés, puisqu'ils sont mis en rétention, à Cornevarieux, au centre de rétention. Et ce qui est étonnant, c'est que fréquemment, les gens nous disent, ils peuvent y rester, je rappelle, jusqu'à 90 jours actuellement, avec les dernières mesures qui ont été prises pour une éventuelle expulsion. Et ce que disent fréquemment les gens en rétention à Cornevarieux, c'est que la rétention, c'est encore pire que la prison de Seis, où ils ont quand même un certain nombre d'activités et tout, alors qu'en rétention, ils sont enfermés jour et nuit, sans aucune activité, et c'est assez remarquable. Enfin, c'est à savoir aussi hein, ce thème de la rétention, où les gens sont vraiment traités comme des moins que rien. Hein. Évidemment, ils sont des étrangers.
Non, mais je confirme, hein, pendant mes quelques années CIMAD, j'ai été visiteur auprès de centres de rétention, et effectivement, c'est, comme tu dis, c'est un autre monde avec des contraintes tout à fait inacceptables.
Alors, et un autre point sur lequel je voulais intervenir, c'est bon, quand on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, l'exemple américain est quand même fameux, parce que je pense qu'en en matière de taux d'incarcération, ça bat tous les records. Je crois qu'il y a plus d'un million de personnes en rétention, c'est énorme. Et bon, avec tout le contexte social aussi qui est lié. Et en plus avec un phénomène, et je voudrais savoir, parce qu'en Europe, je crois que ça a commencé à se mettre en place avec un contexte de privatisation des prisons, c'est-à-dire que ça devient un business. Il y a un certain nombre d'États américains où les prisons sont privées, etc. Et je crois qu'en Europe, il y a eu quelques... Je ne sais pas si c'est pas aux Pays-Bas, d'ailleurs. Je sais pas, tu peux nous en dire peut-être plus là-dessus.
Oui, alors ça, c'est une question qui... celle de la privatisation des prisons... Que je maîtrise un peu moins bien. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il peut y avoir des établissements totalement entre les mains du privé. En tout cas, en Europe, j'ai pas vraiment d'illustration de ce côté-là. Par contre, une privatisation très significative des services à l'intérieur de la prison. Par exemple, restauration, entretien des bâtiments, etc.
Une autre intervention ?
Juste rapidement, merci d'avoir donné des pourcentages, d'avoir donné des nombres, parce que ça peut dépassionner le débat. Parce que ce débat, comme pour la migration, c'est un débat principalement émotionnel. Et dans ce sens-là aussi... En ce qui concerne les étrangers, évidemment, qui sont mon activité, est-ce que tu as des chiffres concernant cette instrumentalisation de têtes de Turcs étrangers, quoi? Est-ce que tu as des chiffres concernant un rapport entre le nombre d'étrangers en France et le nombre d'étrangers en détention, par exemple. Ou en détention.
Alors, des chiffres là de mémoire, de façon précise, non. Ils figurent dans ces chiffres. On peut les retrouver notamment dans les statistiques fournies par le ministère de la Justice, qui sont des statistiques très, très complètes. Très, très complètes. Mais j'ai beaucoup de réticence à aborder cette question particulière de la proportion des étrangers. Alors, pour répondre, Andris, à ta question directement, il n'y a pas de distorsion énorme quand on prend la proportion du nombre de détenus rapportés à la population de nationalité française versus la proportion du nombre de personnes d'origine étrangère n'ayant pas la nationalité rapportée à l'ensemble de la population avec les mêmes caractéristiques. Il y a une légère distorsion, c'est vrai, hein, mais qui n'est pas vraiment significative. Bon. Et alors, autant évidemment la question de la rétention qui était évoquée par Jean-Pierre tout à l'heure concerne évidemment plein pot la population étrangère, autant en milieu carcéral, il y a des caractéristiques des personnes que l'on peut rencontrer de nationalité étrangère qui sont beaucoup plus importantes que le fait d'être étranger, je veux dire par là. C'est-à-dire les caractéristiques que j'évoquais tout à l'heure dans le profil général de ce que sont les détenus. Dans les caractéristiques que j'ai listées tout à l'heure, je n'ai pas voulu faire figurer... le fait que la personne soit étrangère ou pas. Parce que je pense que c'est une caractéristique assez faible. Ce que l'on peut dire, contrairement aux idées reçues, je me souviens d'un échange que j'ai eu avec l'une de mes voisines dans un village du Gers, et qui m'a dit « Ah bon, vous êtes visiteur de prison ?» Et c'est vrai qu'il y a plein d'Arabes dans les prisons. Donc évidemment, ça, c'est le genre de question qui laisse à penser que si on fait un focus... Sur ce point-là, on appuie sur le bouton des représentations fantasmées sur ce que sont les prisons en France.
C'est à peu près tout ce que je peux te dire là-dessus. À mon avis, il n'y a pas vraiment quelque chose de particulier lié à une différence de nationalité à l'intérieur des prisons, sauf la menace, effectivement, qui, elle, est palpable, de la double peine, hein, en sortie de prison. Ça, oui, ça, c'est un vrai sujet. Sinon... Bon.
D'autres interventions ? Bon, sinon, on peut s'arrêter là, hein, oui. Je pense. Merci, Philippe, pour ton intervention. Merci pour votre participation. Et puis... vous avez sur la tablette là-haut quelques documents des amis du monde diplomatique, profitez-en. Et puis à une prochaine rencontre, j'espère. Merci.
Même audio, une mémoire sonore.